en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce Lachenardière.
Maurice Genevoix de l'Académie française, un jeune auteur à redécouvrir en 4 émissions proposées par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. L'œuvre de Maurice Genevoix dans son siècle, avec Eliane Tonnet-Lacroix, maître de conférence honoraire de littérature contemporaine à l'Université de Paris 3. Bonjour madame.
Bonjour.
Pour la musique, Francis Poulenc, Un soir dans la neige et Figure humaine. Tant mieux si le jardin est clos. Du côté par où l'on y arrive, presque au ras de la barrière, il y a la rivière et le pont. Dès que l'on est passé, ce n'est plus le jardin, c'est l'île. La vieille muraille, derrière ce fouillis de buissons, la défend aussi bien que la rivière. Alors c'est toujours l'île, entourée de tous côtés. Ici d'eau vive, là de vieux murs secrets, ailleurs encore une haie de thuya que double un grillage barbelé. L'île est immense, touffue, bourdonnante, pleine de fruits succulents, de bêtes vivantes qui trottent, rampent, volent. Si l'on y avait fait naufrage, ou si un tremblement de terre venait anéantir le bourg, on pourrait s'y nourrir de baies sauvages et de venaisons. Le long de la remise, dans l'étroite bande de terreau qui la sépare de la rivière, les grands aveliniers portent l'été des milliers d'avelines roses. Le chevelu de leurs branches, là-haut, frôle la lucarne du grenier. Comme la lucarne n'est jamais ouverte, des hirondelles ont bâti leur nid dans les angles de la maçonnerie. On en voit encore des dizaines ronds et grenus accrochés aux chevrons sous l'avancée du toit. Or, les nids d'hirondelles, cela se mange. Voilà d'abondantes provisions. Maurice Genevoix, Le jardin dans l'île, in Romans et récits de la Loire, édition Omnibus, page 613. Cette dernière émission d'une série de 4 va nous permettre de réfléchir à la place de l'œuvre de Maurice Genevoix dans le paysage littéraire français du XXe siècle. Pour conduire cette réflexion, nous nous intéressons aux rêves de l'âge d'or dans l'œuvre de Genevoix. Pourquoi ? Eh bien, il semble que la récurrence de ce thème permet de créer un ailleurs, un monde imaginaire qui transcende le réel. Et que ce thème, peut-être, marginalise l'œuvre de Genevoix, car il n'est pas fréquent dans la littérature du XXe siècle. Siècle du hic et nunc, de l'écrivain qui pose la question de l'engagement dans les réalités de son temps, le siècle, en 3 mots de Jean-Paul Sartre. L'œuvre de Genevoix, au contraire, semble s'éloigner du réel. Ses personnages souvent évoluent dans un temps rêvé, dans des forêts sacralisées. L'âge d'or ici est-il un déni des réalités ou, au contraire, une initiation pour les affronter? L'écriture comme refuge ou comme ouverture au monde, Eliane Tonnet-Lacroix?
Bon, je pense personnellement que ça serait plutôt l'ouverture comme ouverture au monde. Même si d'abord, le rêve de l'âge d'or, effectivement, peut être conçu comme une sorte de refuge. Après les horreurs de la guerre, il est certain que Genevoix a voulu retrouver, il l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, et Rémy Desroches a été sa première œuvre écrite après la guerre, il a voulu retrouver une communion, une harmonie avec la nature qu'il avait connue dans son enfance et sa jeunesse. Donc, c'est vrai que l'âge d'or constitue des retrouvailles avec un bonheur perdu, avec un bonheur d'autrefois. Mais ce n'est pas une fuite du réel, puisque ce bonheur, on le trouve dans le réel, dans la réalité d'un pays, par exemple. Ou dans la réalité, si on peut dire, des souvenirs d'enfance qui ont été réellement vécus. Mmh. Non, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une évasion. Hein ? D'ailleurs, Genevoix dit quelque part, maintenant je ne me souviens plus exactement, mais que, il nous suggère l'idée que l'âge d'or n'est pas ailleurs, mais l'âge d'or est bien dans ce monde, notre paradis est terrestre, il est là justement, il appartient bien lui aussi au Ikenknunk, certainement. Hein, comme beaucoup d'auteurs du XXe siècle, c'est vrai que c'est le jardin de la terre ici que Genevoix cherche à retrouver. Le jardin originel, le jardin paradisiaque, c'est notre terre en fait. Mmh. Voilà ce qu'il dit très souvent sous une forme ou sous une autre dans beaucoup de ses œuvres. Avec un livre comme La forêt perdue, finalement, qui se situe dans un Moyen-Âge assez légendaire, qui pourrait sembler assez irréel pour nous maintenant, on peut se dire qu'effectivement l'âge d'or est quelque chose d'utopique et d'imaginaire. Mais en réalité, je crois que pour Genevoix, ça serait faire un contresens. En fait, le personnage qui est un double, enfin le personnage de Fernando Bell dans Un jour, oui. Hein, qui est un double idéal de Genevoix lui-même. Et son nom d'ailleurs, c'est un personnage symbolique. Son nom est symbolique aussi. C'est l'aube, enfin Obel, oui. Dobel. C'est véritablement un personnage qui communie avec l'âge d'or. Et l'exemple de Fernando Bell nous montre que cet âge d'or qui pourrait nous paraître si lointain et si utopique est dans un sens tout proche puisque nous pouvons le reconquérir à tout moment en nous réinsérant dans le réel, dans la nature. Genevoix a dit, c'est dans le titre de ses livres, l'aventure est en nous et on pourrait dire de la même façon, l'âge d'or est en nous. En fait. Oui. Donc c'est pas une fuite à l'égard de la réalité, certainement pas. Mais c'est vrai que c'est un désir de rompre avec ces horreurs que la guerre justement avait fait connaître à toute une génération. Il n'est pas le seul à vouloir retrouver cet âge d'or. Donc en fait c'est un désir de se réinsérer dans le réel. D'ailleurs on pourrait rapprocher au lendemain de la guerre un livre comme Rémy Desroches qui est vraiment la retrouvaille. Il le dit, c'est un livre de retrouvaille avec le réel. On pourrait rapprocher ça d'un livre de Georges Duhamel, La possession du monde.
Oui.
La possession du monde. Il ne s'agit pas de s'évader dans des paradis imaginaires. Il s'agit de retrouver la réalité, mais dans ce cas-là de beau, et dont on n'a plus vraiment conscience. Donc je pense que c'est autre chose qu'une évasion. Et alors d'autre part, dans ce que vous disiez dans votre phrase introductive, vous disiez que ce n'est pas un thème très fréquent au XXe siècle. Je pense que, enfin si on regarde l'ensemble du XXe siècle, peut-être, mais si on regarde l'après-guerre, au contraire, on pourrait faire de multiples rapprochements avec de très nombreux auteurs de l'entre-deux-guerres.
Oui.
Ça,
oui.
Justement, je citerai quelques exemples seulement, mais vraiment, c'est un des points sur lesquels Genevoix est tout à fait en convergence avec son temps. Pour beaucoup de choses. Avant d'en venir peut-être à l'âge d'or, justement parce que l'âge d'or, il faut le voir aussi par rapport avec l'apocalypse. parce que c'est deux volets d'une même chose finalement. Mais c'est vrai qu'il partage avec son temps quelque chose qui a marqué la littérature après 1919, c'est-à-dire l'expérience de la Première Guerre mondiale. L'expérience qui a été traumatisante et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a incité d'une part beaucoup d'hommes, enfin d'écrivains, de gens qui n'étaient pas écrivains au départ, à écrire. Et d'ailleurs, Jeune Voix ne pensait pas être écrivain, il voulait être peintre. Et c'est le désir de parler de ce qu'il vivait qui l'a incité à écrire. Et quand on lit beaucoup de ces récits de témoignages qui n'ont pas forcément une forme littéraire, d'ailleurs, on voit bien que les gens ont voulu écrire. Enfin, il y a des gens qui ont été amenés à écrire à cause de cette expérience. Déjà, cette expérience traumatisante de la guerre qui incite beaucoup à écrire pour témoigner, qui évidemment donne aussi à tous ces jeunes gens une conscience aiguë de la mort, du tragique, de la destinée humaine, de la précarité de la vie, etc., de la fragilité de l'être humain et de la fragilité finalement de la civilisation, et qui justement les incite à se méfier des prétendus progrès de l'homme moderne. Alors ça nous amène aussi évidemment vers l'idée d'un âge d'or. Donc c'est un. Et là, il
d'ailleurs,
a partagé
on
ça.
On n'a pas défini. Peut-être on aurait peut-être pu commencer par une définition de qu'est-ce que c'est que ce thème de l'âge d'or.
L'âge d'or, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, qui est d'ailleurs sous diverses formes qui apparaît dans, on peut dire, la plupart des civilisations du bassin méditerranéen, et notamment chez les Grecs et les Latins. Et évidemment aussi, il y a des rapports avec ce qu'on trouve dans la Bible, parce que l'âge d'or et le paradis perdu sont voisins. Mais l'âge d'or, au sens strict, c'est l'expression elle-même a été inventée par les Latins, Horace et Virgile, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, tempus aureum, le temps d'or, mais ils reprennent cette idée de l'or qui signifie la pureté, la perfection, etc. Ils le reprennent à Hésiode, qui dans les Travaux et les Jours avait défini non pas l'âge d'or, mais avait évoqué l'enchaînement des races humaines, dont la première était la race d'or. Donc c'est pas d'abord l'âge d'or, c'est d'abord la race d'or. La première des races humaines qui était... qui connaissait le bonheur, qui connaissait la perfection morale, et ensuite tout est allé en déclinant pour arriver jusqu'à la race de fer qui était celle qui caractérisait donc les hommes du temps d'Hésiode. Le temps étant conçu, ce temps dans lequel il vit étant conçu comme un temps où régnait l'injustice, et c'est par opposition dégoût de cette injustice et de cet état de l'humanité, cet état présent qui lui était présent pour lui, qu'il a imaginé, alors peut-être inspiré par des choses qui existaient avant lui, ça je ne sais pas exactement, vraisemblablement, qu'il a donc imaginé cette légende, ce mythe des diverses races humaines, dont la première, la race d'or. Donc l'âge d'or. L'âge d'or, c'est un temps où l'être humain n'était pas encore déchu. Parce qu'évidemment, il y a, avec le mythe de l'âge d'or, il y a forcément l'idée que cet âge d'or est très ancien et perdu depuis fort longtemps, et que maintenant, eh bien, nous sommes dans un état qui est l'âge de fer. Le fer, évidemment, peut faire penser aux armes, à la mort, etc. Donc c'est ça, l'âge d'or. Évidemment, c'est pas sans lien avec, sans ressemblance avec le mythe du paradis perdu, qui est donc dans la Bible, puisque c'est un état originel de l'humanité aussi, où l'homme était en accord avec le monde, avec la divinité, où il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas de haine, etc., etc. Enfin, Peggy en a fait une description magnifique, poétique évidemment aussi, au début de sa grande tapisserie d'Ève. Alors ça, ce sont des choses qui sont très voisines, à ceci près que l'âge d'or, le mythe de l'âge d'or équivaut peut-être de façon plus nette à une condamnation du temps actuel où l'on vit par rapport à ce temps mythique, et donc peut avoir des résonances politiques et sociales que n'a pas évidemment le mythe de l'Éden, qui est davantage se situe davantage sur un plan métaphysique. Mmh. C'est un bonheur, une innocence originelle de l'humanité.
Ce mythe de l'âge d'or travaille parallèlement avec l'image du jardin d'Éden aussi. Donc,
oui.
Dans ce mythe de l'âge d'or, n'y a-t-il pas une suprématie de la nature par rapport à la culture? Enfin, il y aurait l'opposition nature-culture avec une suprématie pour la nature.
Bien sûr, parce qu'effectivement, le monde dans l'âge d'or est représenté comme un monde où la nature offre tous ses dons à l'humanité. Alors évidemment, on n'a pas besoin le travail n'existe pas, la peine, la souffrance. Et même certains peuvent aller assez loin dans ce sens. L'abondance des fruits, l'abondance de tous les biens de la terre qui s'offrent à l'être humain et fait partie des caractéristiques de l'âge d'or. Virgile va même jusqu'à imaginer que la laine des moutons apparaît avec sa teinture. On n'a même pas besoin d'aller faire ça. Enfin, vous voyez, ça nous paraît naïf maintenant et presque comique, mais c'est tout à fait caractéristique. Donc l'homme n'a pas d'effort à faire. Et ça, d'ailleurs, ça correspond. C'est une vision que ne partage pas forcément Genevoix. Quand il imagine des êtres renouant avec la nature, ça ne veut pas dire que la nature va être forcément douce pour eux. Par exemple, dans un de ses livres qui a été inspiré par son voyage au Canada, il a la framboise et belle humeur. Oui. C'est une très rude vie que ces deux personnages qui vont de temps en temps vivre la vie des trappeurs dans le Grand Nord, enfin dans les grands espaces de neige. C'est une vie naturelle, une vie magnifique, mais assez rude en même temps. C'est pas du tout la facilité, la mollesse, l'âge d'or. Dans cette perspective-là. Parce que Genevoix ne pense pas que la nature soit forcément quelque chose de facile. On voit bien d'ailleurs que dans la nature, souvent les choses peuvent être difficiles, peuvent être s'accompagner de violences d'ailleurs aussi. Hein, c'est pas une vision trop idyllique qu'il, en tant que moderne, justement, il n'a pas cette vision idyllique que se plaisaient à avoir les anciens.
Malgré tout, la nature est toujours comme une volonté de liberté.
Des personnages comme Rabolio éprouvent justement.
Ou la framboise aussi,
de partir
dans la nature.
Bien sûr, il y a une continuité là dans l'œuvre de Genevoix. Effectivement, ce sont des êtres qui se sentent libres par rapport aux contraintes sociales, aux choses qui les limitent d'habitude dans la vie sociale, justement. Donc il s'agit de retrouver une liberté pleine et entière, une plénitude. Hein. Mm-hmm. Ça, oui, c'est important, la liberté.
L'homme, disait Gaston Bachelard, est une création du désir, non du besoin. C'est-à-dire que les besoins étant comblés, l'homme reste inassouvi, justement.
Oui, voilà.
Et il est toujours dans un désir de liberté.
Voilà. Et je pense justement que là, le chat-roux, l'histoire du chat-roux, est tout à fait représentative, parce que le chat-roux, après, c'est un chat qui est né à la ville, qui un jour est amené en vacances dans une propriété à la campagne qui s'appelle La Charmeraie, où il découvre précisément le paradis. Hein ? Ensuite, revenu à la ville, il a une telle nostalgie de ce paradis qu'il y revient. Et que là, il s'y perd, il se passe tout un hiver épouvantable, il a faim, il a froid, il est blessé, il est pris dans un piège, il est la victime de la méchanceté des hommes, etc.
Et puis c'est un hiver très rigoureux.
C'est un hiver très rigoureux. Mmh. Enfin, on croit qu'il va mourir.
Il va mourir, et la fontaine même ne peut plus à un moment le désaltérer, parce qu'elle est gelée.
Elle est gelée, voilà, c'est épouvantable. Et d'ailleurs là, Genevoix lui-même l'a dit d'ailleurs, il y a toute une transposition des souffrances que Genevoix a connues pendant les 4 ans de guerre. Enfin, pas pendant les 4 ans, puisqu'il a été blessé à un certain moment, mais enfin pendant toute la période qu'il a,
mois,
a été à la guerre. Et cette souffrance de Roux transpose ça. De même que Roux a cette nostalgie, bien sûr, de ce paradis, de cet endroit paradisiaque qu'il a connu, tout comme Genevoix avait la nostalgie de cette enfance paradisiaque sur les bords de la Loire, avec de la lumière de la Loire, etc. Mais pour revenir à Roux, va tout de même s'en tirer, il va revenir dans un état absolument lamentable dans sa famille originelle. On le soigne, on arrive à le sauver. Et au moment où la famille, enfin le médecin, sa bonne sœur vont repartir à la campagne, et bien lui, on voit, il va repartir. Il n'attend même pas ça. Il a une telle nostalgie de ce paradis qu'il va encore repartir avant eux. Puis finalement,
malgré
il
la souffrance
pas,
qu'il impliquait.
Voilà, on ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il est possible qu'il ait encore de terribles mésaventures. Justement, ça correspond à ce que vous disiez. C'est le besoin est comblé, là, mais c'est le désir. Le désir reste très puissant chez lui.
Et Roux, longtemps après, par-delà le village, pénétra dans un bois profond. Il s'enfonça dans la foule des arbres parmi les ronces et les viornes sauvages. Il sentit sur sa peau la bonne rudesse de l'épine, sous la plante de ses pattes, le velours mouillé des mousses. Partout autour de lui, des chênes de taillis, gardant sur eux toutes leurs feuilles sèches, chuchotaient sous le vent apaisé. Par un clair des hautes branches, une lueur diffuse tombait du ciel et faisait au creux des broussailles briller la tache claire d'une fontaine. Alors, enfin, Roux s'arrêta. Il était là où son brusque désir avait interrompu sa course. Très loin du jardin clos de Mur, loin peut-être de la Charmeraie, il était là, quelque part dans un bois solitaire au bord de la fontaine où il buvait, parce qu'il avait soif. L'eau glacée, en touchant sa langue, en glissant le long de sa gorge, parcourait tout son être d'un frisson délicieux. Il s'assit sur la berge, brusquement sauta vers un chêne, griffa l'écorce et bondit dans les branches. Un autre saut le jeta sur le sol, dans l'épaisseur des feuilles tombées, et il s'y allongea, il s'y coula de tout son corps, roulant des flancs, poussant des pattes, ouvrant à pleine poitrine un bruissant sillage. Une sorte de folie l'avait pris, un délire de bonheur et d'orgueil. Toutes les attaches étaient rompues. Seul et libre dans le bois sauvage, il se roulait dans les feuilles à plein ventre et son cri fauve, à roux, chantait au bord de la fontaine. Maurice Genevoix, Roux, Une romance et récits de la Loire, édition Omnibus, page 415.
La paix et le désamour et les malheurs dans ce baiser, c'est
vouliez revenir, Eliane Tonnet-Lacroix, sur la fréquence du thème de la nature et du paradis perdu dans la littérature du XXe siècle.
Je disais tout à l'heure, donc j'avais insisté sur le fait que c'est quand même dans la réalité de la nature et dans la réalité de notre monde que Genevoix veut retrouver ce paradis. Et d'autre part, je voulais insister sur le fait que c'est quand même un thème qui est relativement fréquent, au moins à l'époque de Genevoix. Peut-être même après d'ailleurs, mais enfin à l'époque de Genevoix en tout cas. Justement, j'étais partie de là, de l'expérience de la guerre, pour dire qu'il y avait beaucoup de convergences avec son temps. Il y en a énormément qu'on pourrait citer très rapidement. La méfiance justement pour le progrès, pour le rationalisme, avec le goût, justement, le goût des sensations, le goût de ce qui est physique, l'éloge du sport, enfin de l'effort physique. Comme on le voit d'ailleurs dans Eutymos, vainqueur olympique, où l'antiquité qu'il fait revivre là est une espèce d'âge d'or à sa façon. Il y a tout cela. Il y a aussi même le mal du siècle, finalement. Genevoix en a donné sa propre version, qui n'est pas sans analogie avec beaucoup d'autres textes de son époque. Il a écrit, publié en 1928, un roman qui s'intitule « Les mains vides ».
Oui.
Où il met en scène un personnage, comme on en voit beaucoup dans les romans d'époque, un personnage d'anti-héros qui est assez passif, assez impuissant à vivre, au fond, impuissant à agir, qui a les mains vides, tout comme Drieu-La Rochelle avait écrit une nouvelle fameuse, La valise vide, hein, ce sentiment du vide, ce sentiment de dépossession du mal du siècle. Je ne sais pas si, dans quelle mesure Genevoix l'a lui-même éprouvé, mais en tout cas, il en a donné une expression là, avec un de ses personnages. Donc, il y a beaucoup de points communs. Et il y a également, donc, entre lui et son époque, cette tendance à s'intéresser à ce vieux mythe de l'âge d'or en le mettant en comparaison et en balance avec ce sentiment de l'apocalypse qui a aussi saisi très souvent les gens de cette époque, justement avec l'expérience de la guerre. Ce sont deux thèmes qui sont très souvent complémentaires, qui peuvent apparaître indépendamment l'un de l'autre, mais qui souvent, dans une même œuvre, peuvent être complémentaires. C'est le cas chez Genevoix, puisque l'apocalypse de la guerre, d'une part, et d'autre part, l'harmonie de l'âge d'or. Mais alors, on pourrait citer énormément d'auteurs, par exemple Giono, dans un de ses romans, enfin dans plusieurs œuvres sans doute, mais notamment avec Le Grand Troupeau, où il évoque la guerre comme une véritable apocalypse destructrice, et où en même temps, il évoque aussi à la fin du roman quelque chose qui nous fait penser à l'âge d'or tel que Virgile, par exemple, dans la quatrième bucolique, le présentait, puisqu'à la fin du roman, on a la vision d'un nouveau-né qui est porteur d'espérance, comme le suggère d'ailleurs cette étoile qui monte dans le ciel à ce moment-là. Alors c'est toute l'imagerie de Noël, du Noël chrétien, et en même temps, ça s'associe avec cette idée d'un enfant porteur de renouveau, tel que Virgile, précisément, en donnait l'image dans sa quatrième bucolique, puisque c'est là qu'il va développer le thème de l'âge d'or.
C'est ça, en fait, ce thème de l'âge d'or, en tout cas chez Genevoix. Peut-être c'est une condition sine qua non pour poursuivre son œuvre après les œuvres de guerre. Parce qu'il n'aurait pas pu rester dans cette thématique.
Oui, c'est ça. C'est une façon de retrouver de s'en extraire, en fait, afin de voir qu'il y a quand même quelque chose qui est de positif, à quoi on peut se raccrocher. Et alors là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on pourrait citer ce double aspect à la fois de destruction apocalyptique, de crainte justement, de catastrophe qu'il y a par exemple chez Ramuse, et en même temps aussi, dans un livre comme Joie dans le ciel, cette vision aussi de renouveau, mais de renouveau dans un temps mythique en quelque sorte. Et Giraudoux, c'est aussi quelqu'un qui, à ce point de vue-là, pourrait être rapproché de Genevoix. Le thème des villes détruites dans son théâtre, notamment, je ne dis pas dans ses romans, mais dans son théâtre, Sodome et Gomorrhe, avec La guerre de Troie n'aura pas lieu, ou Électre aussi, avec la destruction d'Argos. Et dans Électre, justement, Électre qui est une sorte d'ange exterminateur, à cause d'elle, tout va être détruit. Mais en même temps, à la fin, c'est ça, cela s'appelle l'aurore, comme dit le mendiant. Il y a peut-être une sorte de renaissance possible. Et puis alors, il y a surtout dans Elex, le personnage du jardinier. Et là, on trouve le thème du jardin, justement. Mmh. Il y a aussi des personnages de jardiniers chez Genevoix. Mmh. Hein. Avec tout ce que ça symbolise, justement, de d'accord avec la nature et de choses qui peuvent procurer à l'homme le bonheur, la sagesse. À la fois le bonheur et la sagesse.
Oui, mais avec le jardinier, il y a le travail à faire sur la nature pour qu'elle porte ses fruits
oui,
aussi.
Oui, 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 exactement.
C'est
oui,
pas la nature sauvage.
C'est pas la nature sauvage, mais c'est une nature que l'homme peut cultiver, qu'il doit cultiver. Et le jardinier, chez Giraudoux, là, dans son fameux lamento qui coupe les deux actes d'Electre, eh bien, en fait, dans cette tragédie, au cœur de la tragédie, le jardinier vient nier à la tragédie. Hein. Il vient dire que finalement, quand il voit la pharaonne se suicider, etc., eh bien, qu'est-ce qu'il entend ? Lui, il entend amour, il entend espérance, etc. Enfin, je résume en gros, mais c'est ça, quoi. C'est très paradoxal, bien sûr, comme toujours chez Giraudoux, mais c'est ça. La tragédie, finalement, ça n'existe pas. On peut la supprimer, si on veut. Enfin, si on veut faire l'effort de le faire.
Si on voulait.
Voilà, si on voulait. Et Fernand Dobel, d'ailleurs, dans Un jour, il fait dire à ce personnage, la mort n'existe pas. Il y a un peu quelque chose d'analogue. Mais alors, on pourrait citer encore d'autres exemples. Supervielle, la poésie de Supervielle est remplie de ces images de monde détruit où il n'y a plus rien, le monde est sans rien. Il ne reste plus rien, il n'y a plus que des espèces de fumées, de vapeurs qui sont comme ça, qui flottent dans l'air. Les hommes n'existent plus, ils ont disparu de la planète. Mais en même temps, il y a tous les matins du monde, enfin, il y a toutes ces visions d'âge d'or qui sont aussi dans sa poésie. Quant à Breton, alors, les surréalistes et Bretons, c'est bien évident que pour eux, ce sont des thèmes essentiels. Ils appellent la destruction, ils détruisent beaucoup eux-mêmes, au moins dans certains domaines. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est retrouver, justement, l'âge d'or. Bon, il y a le fameux film de Buñuel qui s'appelle L'âge d'or, bien sûr, mais par exemple, il y a cette phrase de Breton aussi, dans l'introduction au discours sur le peu de réalité, qui a ensuite paru dans Point du jour. « Il ne tient peut-être qu'à nous de jeter sur les ruines de l'ancien monde les bases de notre nouveau paradis terrestre. » Or, c'est bien un paradis terrestre, c'est bien un paradis qu'on doit trouver ici. Ce n'est pas dans un ailleurs extraordinairement lointain ou irréel, hein, c'est vraiment dans la réalité.
C'est ça, donc l'âge d'or versus la barbarie.
Oui, puisque l'apocalypse, c'est ça, c'est le triomphe de la barbarie, bien sûr. La barbarie qui est le fait des hommes, ça, il faut pas, mais qui peut être le fait de certains aspects de la nature aussi. La nature, elle est cruelle. Hein. Il suffit de voir dans Roux, justement, les batailles entre les chats, les blessures qui s'infligent, les instincts meurtriers, et même une certaine fascination du sang qui n'est pas absente chez Genevoix dans plusieurs de ses livres, et qu'il avoue lui-même avoir ressenti. Il y a une fascination du sang, quand il était petit, justement, quand on avait mis la jambe dans un bain de sang, là, il y a de l'horreur, mais en même temps, il y a de la fascination.
Oui.
Et pour en revenir alors encore à ce double aspect, il y aurait encore un autre exemple qu'on pourrait citer, mais alors qui n'est plus de l'entre-deux-guerres, mais qui est après la Seconde Guerre mondiale, c'est Ionesco. Alors Ionesco, dans son œuvre, on voit ces deux volets, l'Apocalypse, le tueur s'engage. Hein, oui. Le tueur qui détruit tout finalement, qui détruit ce monde harmonieux de la cité idéale, de la cité heureuse que découvre avec émerveillement le personnage de Béranger. Et le personnage de Béranger, qui est un homme de l'âge d'or, finalement, parce que c'est un être naïf, un être qui croit, qui est poursuivi par un rêve d'innocence. Il raconte d'ailleurs ses rêves, mais ce sont des rêves d'ailleurs qui sont ceux de Ionesco, hein, puisqu'il transpose très souvent ses propres rêves dans son théâtre. Eh bien, ce naïf qui rêve d'harmonie édénique, d'innocence, d'un bonheur de plénitude. Et pourtant, qui va être pris justement dans l'Apocalypse et qui va être la victime de tueurs sans gage, tout comme la cité. Et ensuite, ce Béranger, sous une autre forme, va réapparaître dans Rhinocéros, où il va, là aussi, l'Apocalypse, représentée par la transformation des hommes en rhinocéros, va aussi en faire une victime. Donc, vous voyez que ce thème n'est pas absent, loin de là.
Oui, on découvre finalement qu'il est beaucoup plus proche de son temps. Et oui, c'est un peu un piège finalement, cet âge d'or. A priori, à une première lecture, on s'imagine qu'il le coupe d'une réalité. Et finalement, vous nous montrez qu'au contraire, il le rapproche de cette réalité, il la questionne. Mmh. Et qu'en ça, il était tout à fait de son temps. Elle fut bientôt sous les arbres, sans cheval, sans armes, les mains nues. À mesure qu'elle marchait, elle sentait son corps s'alléger. Dans l'éclair, entre les bouleaux et les pins, l'aurore qui coulait dans le ciel coulait aussi sur les longues pentes et doucement l'entraînait avec elle. Déjà le taillis reprenait, mais nulle entrave n'y retardait ses pas. On eût dit que les rameaux s'écartaient devant son visage, parfois d'une feuille l'effleurant comme pour caresser au passage son front, sa joue, ses cheveux. Une même rosée fraîche et lustrale mouillait la feuille et la mèche blonde. Les premiers chants d'oiseaux s'éveillaient moins drus qu'à la saison des nids, mais chacun d'eux, ainsi mieux distinct, chantait pour elle en même temps qu'au jour naissant. Le pouillot vert des arbres, l'hippolaïs, la fauvette babillarde, tour à tour charmaient son ouïe. Elle savait que s'il s'interrompait, ce n'était pas à cause de sa venue, mais seulement parce que leur chant d'automne aime s'entendre lui-même et ne se tait que pour mieux s'écouter. Et en effet, le chant reprenait parfois juste au-dessus d'elle, joyeux, sonore, vif et limpide. Maurice Genevoix, La forêt perdue, in romans et récits de la Loire, édition Omnibus, 2001, page 1150. Alors, bon, vous me dites que son thème de l'âge d'or le rapproche malgré tout de la réalité, mais enfin là, avec cet extrait, nous sommes vraiment dans un monde légendaire avec châteaux, forêts profondes, serres fantastiques, loups, jeunes filles blondes, cheveux au vent, etc.
Oui, enfin, en apparence, évidemment, il a l'air de s'éloigner, de s'évader dans un monde imaginaire, mais c'est peut-être une image simplement de l'idée que on a recherché quelque chose qui ne nous apparaît plus, qui est perdu, mais que l'on peut retrouver, justement, dans la réalité. C'est un monde perdu, c'est certain, c'est un monde disparu, comme le monde du Moyen-Âge, le monde des féeries, le monde des légendes. C'est un monde secret d'ailleurs aussi, parce que la forêt justement est un peu comme une île, elle est mystérieuse, elle est inviolée, c'est difficile de pénétrer dans la forêt.
Mais ce n'est d'ailleurs qu'un moment pour le personnage.
Ce n'est qu'un moment, ceci dit, voilà, ce n'est qu'un moment, mais c'est un moment quand même intense. Hein. C'est un petit peu comme une illumination poétique en quelque sorte. C'est un peu de la poésie, si vous voulez ça. C'est un contact profond, mystérieux, avec quelque chose que d'habitude on ne voit pas ou on ne sent pas. D'ailleurs, c'est dans ce livre, dans La forêt perdue, qu'à propos de ce personnage, et pas simplement à propos de Florie, mais aussi à propos du seigneur Bonavent, qui est
oui,
le père Florie, de
Florie. C'est donc la jeune fille qui est dans la forêt, dans l'extrait que j'ai lu.
Voilà.
Oui.
Le piqueux, la brisée, etc. Ils éprouvent tous la même nostalgie pour un monde disparu. Et tous ces personnages sont qualifiés par le narrateur avec des termes comme poète ou voyant, qui nous amène précisément à l'idée de la poésie telle que l'a conçue la fin du XIXe siècle et même une grande partie du XXe siècle, cette idée de retrouver des secrets perdus, ce qui nous ramène d'ailleurs à ce que disait aussi un peu ce que disent les surréalistes. Hein. Il s'agit de retrouver des possibilités de notre esprit que nous avons égarées, que nous ne savons plus, dont nous ne savons plus user. Il s'agit de retrouver quelque chose qui nous permettait de comprendre des signes, parce que c'est ça, il s'agit de comprendre des signes. Hein. Fernando Bell, justement, aussi, le mot est employé d'ailleurs dans le livre que Genevoix lui consacre, il est capable de comprendre les signes que lui fait la nature, que lui fait le monde. Et ça, c'est donc une qualité de poète, presque, parce que je ne vois
pas le personnage. Par exemple, ce personnage comme Florie qui va dans la forêt, justement, c'est quelque chose qu'il pourrait. C'est comme une initiation.
Oui.
C'est ça, comme un moment d'initiation. Voilà. Et quand le personnage en sort, en fait, il a une connaissance qu'il n'avait pas avant.
Voilà, il a perçu quelque chose. Ça n'a duré peut-être qu'un moment, mais il a perçu quelque chose à quoi son âme aspirait en profondeur, sans peut-être trop savoir de quoi il s'agissait. Mais qui évidemment ne peut pas durer. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il a saisi momentanément.
En même temps, là, ce personnage de Florrie, au fond, je pense qu'elle sait à la fin ce qu'elle cherchait. Là, dans l'extrait que j'ai lu, en fait, justement, il est précisé qu'elle vient sans armes, alors que jusqu'à présent, son père, ce sont des chasseurs, et elle-même, on l'a initiée à la chasse, et là, c'est pour la première fois qu'elle va dans la forêt sans armes, et donc, elle va apprendre à vivre avec la nature, sans le conflit, sans la violence.
Et alors, justement, l'expérience qu'elle fait, c'est
une
expérience...
Une espèce de communion avec la nature, et non plus une opposition.
Et une expérience qui nous rappelle même, quelquefois, les idées que les anciens se faisaient de l'âge d'or, justement. Puisque elle nous dit Genevoix, accueillie par une forêt magique, où la fatigue n'existait plus, ni la crainte, ni les obstacles. Or, c'est ça l'état de l'âge d'or, tel que le décrivait Hésiode, etc. Les hommes n'avaient pas de crainte, ils ne craignaient pas la mort, ils ne craignaient pas la douleur, ils étaient bien, quoi. Ils étaient en harmonie avec tout le reste. Mm-hmm. Et ça, elle connaît le bonheur de la race d'or, justement. Et les animaux viennent au devant d'elle pour lui lécher les mains aussi. C'est assez... Et tout ainsi lui était rendu, commente le narrateur. Tout lui était rendu. C'est donc quelque chose dont on avait été dépossédé, dont l'humanité a été dépossédée, mais qui originellement lui appartenait. Et ça, c'est bien l'idée des surréalistes aussi.
Mais alors, avec ce thème de l'âge d'or et donc aussi souvent du jardin, en fait, il y a aussi le thème, évidemment, de la chute.
Voilà, de la chute. Alors là, fait partie du thème, enfin, à proprement parler du thème du paradis perdu, du jardin d'Éden, mais qui, évidemment, sous une autre forme, apparaît dans l'âge d'or, puisque ensuite, il y a le déclin. Il y a le déclin des races qui deviennent des races de moins en moins précieuses. Donc c'est un peu la même idée, à la différence près qu'il n'y a pas de faute. Dans le mythe biblique, on perd le paradis, on perd l'Éden parce que Ève et Adam ont commis une faute. Alors que chez Hésiode, on ne comprend pas pourquoi finalement les hommes... Il y a une dégradation naturelle des choses. C'est une espèce de loi de ce qui existe qui va se dégrader progressivement et qui fait qu'on s'éloigne de plus en plus avec peut-être la possibilité, mais ça c'est évidemment une possibilité peut-être utopique, de retrouver un jour par une espèce de retour cyclique du temps parce qu'on n'est plus dans cette continuité temporelle qui fait que les choses vont dans un sens... là, peut-être qu'on va revenir à un état antérieur, c'est peut-être chimérique, évidemment. Mais on a bien, effectivement, dans les deux cas, l'idée de ce qu'on peut appeler, disons, pour simplifier, une chute.
Alors ce thème, on l'a aussi tout à fait bien exploité dans Le Jardin dans l'île, avec ce personnage de petit garçon, Fan, qui se jette même dans le vide.
Oui, alors c'est ça. Alors là, il y a la chute, elle apparaît sous un sens métaphorique et sous un sens
en même temps très concret.
Littéral. Puisque le petit garçon... Alors, il faut expliquer pourquoi c'est un paradis, en fait, ce jardin. Parce que c'est un jardin, c'est un beau jardin, luxuriant, avec des tas de senteurs, de fleurs, de couleurs, etc. Et c'est un endroit aussi où l'enfant se sent libre. Justement. Il se sent libre des contraintes que lui imposent habituellement ses parents. Parce que là, il va dans le jardin de sa grand-mère. Il n'y va que le jeudi. Alors là, c'est un jour exceptionnel où les contraintes habituelles, les interdictions, etc., sont abolies. Alors il est libre. Il peut tenter des choses, d'ailleurs, quelquefois presque un peu dangereuses avec ses amis. Et ils vont faire des escapades alors qu'il ne, peut-être les parents le lui auraient interdit. Là, il se sent beaucoup plus à l'aise et il peut faire des découvertes, faire des expériences passionnantes. Donc c'est un paradis. Mais justement, quand le livre commence, c'est un jeudi donc où il se rend chez sa grand-mère comme d'habitude. Mais ce jour-là, c'est pas un jeudi comme les autres. Il commence à sentir que les choses ne se passent pas aussi bien que d'habitude. Alors, je ne me souviens plus dans le détail des petits incidents, mais c'est des choses qui le déçoivent. Oui, voilà, il y a plusieurs choses qui le déçoivent, qui le chiffonnent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le début de la chute, en fait. Parce qu'au fond, ce que nous raconte le livre, c'est la chute, au sens symbolique du terme, bien sûr. Et c'est le début des désillusions qui vont ensuite augmenter.
C'est une prise de conscience, en fait, sur les difficultés.
Voilà, une prise de conscience aussi. Voilà. Il devient plus grand. Enfin, il devient plus grand. Voilà. Il n'a plus cette heureuse harmonie de la petite enfance avec le monde qui l'entoure. Et dans cette espèce de lieu préservé qui était le jardin dans l'île. On était déjà dans un jardin et le jardin lui-même est dans une petite île. En fait, c'est très tout petit ce jardin, mais aux yeux de l'enfant.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que la mère de Fan dit. Le jardin est petit.
Voilà.
Et Fan, au début, pense qu'au contraire, ce jardin est grand, que sa mère
ne voit pas les choses
très bien. Et puis, à la fin, finalement, il dit oui. Voilà. Le jardin est petit.
Voilà, il a pris conscience des réalités et il est sorti de la toute petite enfance et puis il est désillusionné en quelque sorte. Il commence l'expérience de la désillusion qui l'amènera peu à peu, évidemment, avec beaucoup d'autres choses encore, à l'âge adulte. Alors c'est la chute et alors il se produit aussi une chute réelle de l'enfant puisque il est dans le grenier et puis il va tomber par la lucarne du grenier.
Enfin, il se jette presque dans le vide.
C'est une sorte de défi justement.
Oui, oui. Parce qu'un petit camarade au fond l'y oblige pratiquement quoi. Parce que pour pas perdre la face.
Voilà, c'est ça. Il veut montrer qu'il est capable de transgresser. Mais voilà. Il sait bien qu'il ne faudrait pas le faire, mais il peut transgresser. Alors
évidemment,
il va la prendre à ses dépens.
Oui, oui.
Là,
c'est une première mort.
Comment
on dit ? Il faut mourir pour renaître et il va. C'est presque un suicide en fait parce qu'il se jette dans le vide et puis après il va. Il a une connaissance, une sagesse.
On peut le comprendre comme ça. Et en même temps, c'est une espèce de défi qui essaie de briser les lois de la pesanteur, en quelque sorte aussi. Moi, ça me fait penser un petit peu à... Oui. Justement, je parlais de Ionesco tout à l'heure, mais dans Ionesco, il y a la pièce qui s'intitule « Le piéton de l'air », où précisément, dans cet état édénique de jadis, eh bien, l'homme, après tout, pourquoi est-il limité ? Pourquoi ne peut-il pas voler ? Eh bien oui, l'homme, après tout, il y a eu peut-être un temps où il pouvait voler, il n'était pas lié par la pesanteur. Il pouvait être un piéton de l'air. Donc ça fait partie aussi, ça peut faire partie de ce rêve d'un état où l'homme n'a pas les limites qu'on lui connaît habituellement. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi dans la chute de ce personnage, enfin dans le fait qu'il s'élance. Mais seulement, il va, au lieu de voler, il va tomber et puis il va se faire mal.
Oui.
Voilà, c'est ça le problème. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que quand même, dans les récits de Genevoix où il y a évocation du thème de l'âge d'or, ça ne constitue toujours qu'un épisode assez bref ou quelque chose qui est en train de se terminer, comme dans le cas du jardin dans l'île, ou alors un épisode assez bref, comme dans le cas de Roux, où c'est une partie simplement du roman qui est consacré à la charmerie.
Roux qui est un chat.
Voilà. Roux, c'est le chat. Ou bien encore même dans La dernière Hearde, où il y a quand même un passage qui est véritablement un tableau de l'âge d'or. Et c'est simplement la fin d'un chapitre. En fait, c'est simplement un moment dans ce roman où précisément la chasse va être très cruelle, où il n'est question que de la chasse finalement, où ça va se terminer par des morts. Eh bien, c'est un roman d'ailleurs qui date de 1938. Nous sommes à la veille de la guerre. Et ce thème de la chasse n'est peut-être pas cette cruauté de la chasse et des tueurs n'est pas sans rapport avec l'actualité. Le film de Jean Renoir, La règle du jeu, d'ailleurs, développe aussi cette image de la chasse à la même époque. Mais dans ce livre, donc finalement, qui est assez cruel d'une certaine façon et qui est en plus, comme nous le suggère le titre, nous parle peut-être de la fin de quelque chose, la dernière Hearde. Parce que finalement, pourquoi la dernière Hearde, comme si ça avait été une apocalypse.
Parce que le roman s'achève sur le fait qu'il n'y a plus aucun mal.
Il y a quelque chose qui s'achève.
Et donc,
voilà.
Il n'y a plus que des biches et donc
voilà.
Ça n'y aura
il
n'y plus
a
de...
plus, voilà, il y a quelque chose qui va être détruit, à cause de la mort justement du grand cerf rouge.
Oui,
voilà,
oui.
Il y a ça. Eh bien, il y avait pourtant dans ce livre une page où véritablement... Je ne vois peigner l'âge d'or. C'est un moment où c'est le soir. C'est un moment où le grand cerf rouge s'approche d'une cabane qu'il y a dans la forêt. Il y a une famille de bûcherons qui sont en train de faire de la musique. Il y en a un, je crois, qui joue de l'accordéon, l'autre qui chante, enfin quelque chose comme ça. Et c'est une vision idyllique. C'est un tableau idyllique en fait. Tout est calme, c'est le soir, le temps est beau, enfin c'est vraiment tout va pour le mieux. Et le cerf s'approche, il n'a pas peur, il s'approche très près de ses personnages. Les personnages le voient, n'ont aucun geste d'hostilité à son égard. Et il y a une harmonie qui s'établit entre cet animal et cette famille de bûcherons, avec la musique justement qui donne cette impression de paix et de bonheur, et de joie de vivre, de plaisir. Donc c'est un tableau de l'âge d'or qui est au sein de cette histoire tragique. Là, c'est assez caractéristique. Mais ce n'est qu'un épisode aussi. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais cette harmonie entre l'être humain et l'animal, ces retrouvailles de l'être humain et de l'animal, Genevoix en parle très souvent dans ses œuvres. Et il y a une anecdote autobiographique, quelque chose qu'il a, une expérience qu'il a faite lui-même, ce fameux moment où il a lié amitié avec un écureuil.
Ah oui, on en a parlé, oui, dans une émission précédente.
Oui, voilà. Et ça, c'est assez caractéristique. Il a été obligé de le ramener lui-même dans la forêt, cet écureuil. L'écureuil ne voulait plus le quitter.
Il ne voulait plus le quitter, oui.
C'est amusant, mais en même temps, c'est significatif de, quand même, de cette aisance qu'il avait avec, avec les animaux et avec la vie naturelle. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est un épisode, l'âge d'or, mais c'est un épisode qui est récurrent.
Peut-être nous allons avancer vers la conclusion de ce cycle de 4 émissions sur Maurice Genevoix. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que Genevoix n'est-il pas un écrivain paradoxal à la fois marginal et académicien?
C'est vrai que justement, Genevoix... académicien, comme vous dites, peut être considéré aussi comme un écrivain relativement conventionnel. Ça, c'est vrai. Et c'est peut-être cela qui fait qu'il souffre d'un certain effacement dans les histoires littéraires du XXe siècle. C'est assez frappant, là, j'ai regardé 2 ou 3 livres concernant l'histoire, soit des dictionnaires, soit des histoires de la littérature, et il est certain que Genevoix semble quelquefois mis un peu à l'écart. Je n'en donnerai que 2 exemples. Il y a, par exemple, le livre de Marie-Claire Bancard et Pierre Canet, « La littérature française du XXe siècle », donc qui est un livre de 1992, où, disons, les auteurs élus de la littérature de guerre comme trop souvent conventionnels, citent très rapidement Barbus et Duhamel, mais ne parlent absolument pas ni de Dorgelès, par exemple, ni de Genevoix. Ce qui peut paraître quand même assez injuste. Et un autre exemple significatif aussi, c'est dans le dictionnaire qui a paru en 2000, le dictionnaire dirigé par Philippe Hamon, le Robert des grands écrivains. Et déjà, le titre est révélateur, évidemment, qu'un choix a été fait parmi les écrivains. Et effectivement, Genevoix ne semble pas faire partie, aux yeux des auteurs, des grands écrivains, puisqu'il est absent. Ceci dit, là encore, il y a certains partis pris dans les choix qui ont été faits, puisque par exemple, un poète majeur, me semble-t-il, comme Yves Bonnefoy, ne fait pas partie non plus de ce dictionnaire.
Oui.
Bon. Mais enfin, c'est un fait que cette absence de Genevoix, ou du moins cette présence un peu effacée, ça revient assez souvent. Et lorsqu'on parle de lui, on a tendance à le cantonner. Alors, dans 2 registres, et c'est lui-même d'ailleurs, ça se faisait déjà de son vivant, et lui-même s'en plaignait. Deux domaines, le témoignage de guerre et le récit régionaliste. Bon. Or, ce sont 2 genres, vous remarquez, qui sont considérés comme mineurs. aux marges même presque de la vraie littérature. Le témoignage de guerre n'a pas toujours bonne presse. Un critique comme Barthes, et donc quand même il a fait un peu la loi dans les études littéraires, exclut le témoignage de la littérature. Quant au régionalisme, évidemment, ça peut être considéré bien souvent enfin, comme des récits qui se basent sur un pittoresque peut-être un peu facile, mais sans beaucoup de prolongement. Alors, ça fait que tout ça, ça contribue à cantonner Genevoix dans le rôle d'un écrivain secondaire, voire mineur. On peut remarquer également, d'ailleurs, qu'il n'a pas connu, contrairement à d'autres auteurs du XXe siècle, la consécration de la Pléiade.
De la Pléiade, oui.
Alors que Simenon, par exemple, se trouve dans la Pléiade.
Oui, oui, oui.
Ah, c'est quand même significatif aussi.
Oui, on peut se questionner.
Alors on peut se dire qu'il est entré, comme c'est souvent le cas dans l'histoire littéraire, il est entré à ce qu'on appelle le purgatoire.
Oui.
Et d'ailleurs, là, comme un certain nombre d'écrivains de son époque, de l'entre-deux-guerres, il y a beaucoup d'écrivains de l'entre-deux-guerres qui finalement ont été un peu rejetés dans l'ombre, que ce soit Duhamel, que ce soit Jules Romain, que ce soit même Giraudoux quelquefois. Hein. Alors ça peut être des questions de mode, d'idéologie aussi, peut-être aussi dans le cas de certains de ces auteurs, je ne dis pas de Giraudoux, mais de certains de ces auteurs, ce qui leur a nui, c'est peut-être une production un peu trop abondante, et notamment dans la dernière partie de leur carrière, où, et une production de valeur quelquefois assez inégale. Enfin, il y a de très bons livres, et puis il y en a de moins bons. Oui. Donc ça peut évidemment porter tort à l'image qu'on se fait d'eux. Alors, dans quelle mesure cet effacement relatif, disons, pourrait peut-être se comprendre? Bon, je disais là, peut-être une question de purgatoire et puis de mode, etc. Ça, c'est possible. Il faut quand même peut-être reconnaître que Genevoix a ses limites. Je crois qu'on l'évoquait là, au début de l'émission, il me semble. Il a été un peu en marge des grands mouvements littéraire du XXe siècle, en fait. Il ne fait pas partie des phares du XXe siècle, c'est vrai. Oui. Il n'a pas été le créateur d'un univers romanesque complexe et puissant, comme par exemple Proust, j'ai pu rapprocher d'ailleurs moi-même dans mon article sur le rêve de l'âge d'or, j'ai pu rapprocher Genevoix de Proust. Lui-même d'ailleurs fait le rapprochement avec Combray. Il dit des choses un peu analogues, hein, sur le fait que dans l'enfance, ce qu'on retrouve, ça semble plus vrai. Ce qu'on a connu dans l'enfance semble toujours plus vrai que ce qu'on a connu après. Bon, lui il dit pas exactement la même chose, mais il dit que c'est plus beau. Les fleurs, c'est toujours avec l'image des fleurs, les fleurs sont plus belles. Celle qu'on a connue dans l'enfance. C'est à peu près ce que dit Proust aussi. Mais c'est vrai, bon, il n'a pas bâti cet univers romanesque comme l'a fait Proust. Et même finalement, des auteurs comme Duhamel Romain ou Martin Dugard, avec leur grand cycle romanesque, ont fait quand même une œuvre et ont compté peut-être davantage dans l'histoire de la littérature. D'autre part, en tant qu'écrivain régionaliste, ce qui est une de ses marques, il n'a pas le prestige de Giono, par exemple, c'est sûr. Hein. Alors peut-être que son univers n'a pas certains des prolongements qu'on trouve chez Giono, comme on trouve d'ailleurs chez Ramuz aussi, ou chez Henri Bosco, avec ses prolongements dans le domaine du cosmique, si on peut dire, ou de l'épique, voire du surnaturel, du mystère surnaturel. Parce que ça tient peut-être ça à une des constantes de Genevoix, qui est qu'il reste fondamentalement fidèle au réalisme. Et on sait que Maupassant a été un de ses piliers, puisqu'il avait consacré un mémoire là-dessus, hein, quand il était jeune. Et en ce sens, il est resté tout le temps à l'écart des grands courants de rupture qui ont marqué le XXe siècle. Puisque c'est quand même le siècle du modernisme, de la rupture, du renouveau des formes. Et à ce titre-là, il a pu être un peu négligé parce que, ben, on peut le considérer comme un écrivain, disons, conventionnel, traditionnel. Et je pense cependant que c'est quand même un peu injuste, cette vision des choses. C'est trop réducteur. Il n'est absolument pas l'écrivain conventionnel qu'on pourrait croire. Parce que le réalisme, justement, de Genevoix, et chez lui, non pas une facilité à une méthode qui a fait ses preuves, mais c'est un effort pour cerner au plus près la vérité, la complexité de ce qui est vécu, de ce qui est senti. Hein, les sensations occupent une place énorme dans ces récits. Et en ce sens, on peut tout à fait le rapprocher d'un auteur comme Colette.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, vraiment, c'est un monde de sensations, une richesse de sensations. Et un sentiment authentique de la nature, et en même temps un sentiment poétique de la nature. C'est en cela qu'il est poète. Parce qu'il sent de la nature. C'est tout ce qu'il ressent dans la nature, tous ces signes qu'il sait déchiffrer dans la nature. Alors, c'est peut-être davantage un poète de la nature qu'un grand romancier, finalement. Et ces personnages, par exemple, valent moins pour leur acuité, pour l'acuité psychologique avec laquelle il les expose, que pour les sensations qu'il sait leur donner. Il sait les faire vivre devant nous avec leurs sensations. Hein, et des sensations qui sont justes, toujours, parce que lui-même, en fait, il les a éprouvées. Le braconnage de Rabolio, mais lui-même a fait ses expériences de battu dans la forêt, et d'odeur, etc. Donc, c'est ce rapport à la nature qui fait que, chez lui, vérité et poésie s'associent parfaitement dans une écriture qui nous apparaît comme réaliste, mais qui en même temps est profondément poétique. Hein. Et alors, je pense que le meilleur de son œuvre, en fait, bon, peut-être que certains de ses ouvrages, il en a écrit énormément. Peut-être que certains peuvent paraître démodés ou peuvent paraître avoir vieilli. Bon, ça, c'est le cas d'un certain nombre des œuvres finalement de cette littérature.
Oui, toujours,
au bout d'un certain temps, il y a des choses qui ont vieilli, toujours. Mmh. Hein. Mais je pense que le meilleur de son œuvre tient précisément à la sincérité et à la justesse de ce qu'il a vécu ou ressenti, qu'il a pu faire passer dans ses livres. Et c'est pour ça que peut-être que le meilleur de son œuvre, enfin, à mon point de vue, mais là, c'est un point de vue qui est évidemment, qui peut être contesté, eh bien, c'est peut-être dans ses premières œuvres, justement, les fameux récits de guerre, récits des témoignages, qui, à mon avis, font partie à plein de la littérature. Je ne suis pas du tout de l'avis de Barthes à ce propos. Et qui sont, d'ailleurs, dans le registre des témoignages de guerre, qui sont parmi les plus véridiques et les plus poignants. C'est un de ceux qui fait le moins de littérature au mauvais sens du terme, justement.
Oui.
Et d'autre part, tout ce qui relève aussi de l'autobiographie. De l'autobiographie plus ou moins fantasmée, d'ailleurs. Donc de l'autofiction, peut-être, on pourrait dire, avec un terme plus moderne. Mais avec ses livres qu'il a écrits, notamment à la fin de sa vie. Notamment des livres comme Un jour, où apparaît le personnage Fernando Bell, son double, ou alors 30 000 jours, qui est plus véritablement une autobiographie. Je pense que ce sont ces livres qui sont peut-être parmi les plus intéressants. Et d'ailleurs, avec ces thématiques d'un retour sur soi, d'un retour à la province que l'on a connue dans son enfance, aux origines, à la famille, etc., il n'est pas sans résonance avec tout un mouvement qui a eu lieu dans les années 80-90, hein, avec des gens comme Bergugno notamment.
Oui. Hein.
Mais au-delà des modes et des circonstances, bon, parce qu'après tout, là aussi, on est dans le domaine peut-être des choses passagères, c'est quand même, malgré tout, plus profondément, c'est toute une partie de son œuvre qui rend donc un son extrêmement juste, qui a une réelle valeur poétique et qui, je pense, peut continuer à toucher les lecteurs en quelque temps que ce soit. Donc, je pense qu'il est un peu dommage de le tenir un peu à l'écart dans les histoires littéraires ou les dictionnaires de la littérature. Il mériterait d'être mieux connu et d'être lu davantage. Et je pense qu'on peut espérer peut-être une réévaluation de l'œuvre de Genevoix.
Peut-être ce qui arrivera à cause de notre obligation de nous questionner aujourd'hui,
oui,
avec la nature et le rapport,
oui,
qu'on entretient avec
elle. Oui, ça, il a son côté écologiste,
peut-être qu'il
c'est sûr.
Peut-être qu'il reviendra sur le devant de la scène. Peut-être que ce
sont
des œuvres...
Disons que c'est plus anecdotique, mais en tout cas, il y a une valeur littéraire véritable. Mmh. Hein, ce n'est pas simplement un auteur un peu conventionnel qui raconte des histoires avec du pittoresque, même si ce n'est pas un phare du XXe siècle, ça, je suis d'accord. Mmh. Mais en fait, c'est un auteur qui est tout à fait intéressant.
C'est là-dessus que nous allons conclure. On peut lire donc de Madame Eliane Tonnet-Lacroix l'article que vous aviez écrit, Madame, dans les actes du colloque sur Maurice Genevoix qui avait eu lieu à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et en 1990, les actes ont été publiés donc aux éditions de la Bibliothèque historique de la ville de Paris en 1992. Et votre article s'intitule « Le rêve de l'âge d'or dans l'œuvre de Maurice Genevoix ». Vous avez également publié dans les publications de la Sorbonne en 1991 « Après-guerre et sensibilité littéraire » 1919-1924. Chez Nathan en 95, mais réédité chez Armand Collin en 2005, vous avez également publié « La littérature française de l'entre-deux-guerres ». Puis en 2003, chez L'Harmattan, il y a eu « La littérature française et francophone de 1945 à l'an 2000 ».
Pierre Saint, Pierre Saint.
Ainsi s'achève ce cycle Maurice Genevoix. 4 émissions proposées par Lucrèce Lachenardière et réalisées par Lucien Pénaud.